Chapitre 28. Paul Cézanne. Viens, bats-toi, signe et persiste. Le docteur Van Horst prévint Mona. Il allait cette fois l'inviter à revivre sa crise de cécité survenue voilà déjà plus de 6 mois. Après le succès des 2 premières séances, la petite était désormais prête à avancer dans la thérapie. Au creux du gros fauteuil en cuir, elle se sentait néanmoins nerveuse. Et le médecin, qui percevait un voile d'inquiétude dans son regard tombant et sa bouche crispée, la rassura. Si jamais les sensations étaient trop désagréables, elle pourrait se déplacer vers des pensées ouatées et apaisantes, les idées refuges construites les semaines précédentes. Van Horst posa 3 doigts sur son front, Mona sombra dans les songes. Sous l'influence de la voix du médecin, tout réapparut. L'exercice de mathématiques, la table de la cuisine, les odeurs du dîner dominical, la présence de sa mère dans l'appartement de Montreuil. L'hallucination était prodigieuse, et Mona se sentit refaire les gestes de cette soirée maudite. C'était fascinant et terrible. Au moment de revivre un geste tout simple, qui avait consisté à ôter le pendentif de son cou afin de travailler plus facilement à son devoir, la panique de l'aveuglement la saisit. Un gouffre, un immense gouffre semblable au trou noir des confins de l'espace, s'était formé dans la table qu'elle surplombait et la happait doucement. Il fallait s'échapper de ce cauchemar. La psyché de Mona s'agita alors pour s'en arracher, reculait encore, mais les tensions dans l'effort n'y firent rien. Elle favorisait au contraire la morbide attraction. Aussi changea-t-elle sa manière de procéder, et au lieu de passer par un rapport de force dans lequel elle se sentait vaincue d'avance, elle épousa soudain les rythmes du tourbillon de suie et valsa avec lui. Elle posa un pied, un seul, et glissa dessus, devint une sorte de patineuse astrale, virtuose, gracieuse, et fit capituler le vortex. La psyché de l'enfant était fière de sa victoire, mais pendant ce ballet cosmique, le corps pris dans les rotations du maelstrom avait considérablement diminué. Mona avait remonté le temps. Elle était maintenant toute petite, et du haut de ses 18 mois voyait sa grand-mère qui l'appelait au bout d'une allée bordée de giroflées dans un parc. Mona, maladroitement dressée sur ses 2 jambes, émit un long « ah » d'aise et de curiosité, puis se lança dans ce balancement cadencé où l'on se rattrape d'un pied sur l'autre pour ne pas tomber, élémentaire chorégraphie que l'on appelle la marche. Par l'hypnose, Mona revivait ses premiers pas. Elle avançait au grand air, sous l'œil de Colette qui lui tendait les bras et au cou de laquelle oscillait le pendentif en fil de pêche lesté du cérite goumier. La toute petite fille le fixait, s'en approchait. 1, 2, 4, 6 mètres, sans trébucher. Il y avait des cris de joie, des baisers. Et puis, dans ce parc où Mona avait appris à traverser la vie, se profila une ultime réminiscence. Un promeneur de hasard passa auprès de sa grand-mère, s'arrêta. « Je vous reconnais, madame. Vous êtes Colette Villemain. Je vous admire infiniment, sachez-le. » Et la silhouette disparut. Et les doigts du docteur Van Horst claquèrent. Henri, ce mercredi-là, portait, par négligence sans doute, son pendentif à l'extérieur de sa chemise, et Mona eut alors envie d'en savoir plus à son sujet. Tandis qu'il cheminait vers le musée d'Orsay, elle lui demanda de lui raconter pourquoi, avec mamie, ils avaient choisi, ramassé et porté ces coquillages. Le vieil homme, qu'un insondable chagrin rendait d'habitude si taiseux quand il fallait dire un mot de sa défunte épouse, s'ouvrit cette fois plus volontiers. « Ta grand-mère fut une combattante, une grande combattante, » confia-t-il. Et pour qualifier le pendentif, il parla de talismans, de fétiches, grâce auxquels celles et ceux qui se battent se protègent des violences et des mauvais sorts que peut réserver la vie. « Une grande combattante ?» Mona pressa son grand-père de lui raconter. Mais Henri se ferma et son dos se voûta de longues minutes. Il ne se ressaisit qu'en arrivant enfin devant le tableau du jour. Là, il se redressa comme s'il s'apprêtait à ascensionner un Everest artistique. C'était un vaste paysage où se bombait un imposant massif au milieu d'une atmosphère méditerranéenne. Le tableau distribuait, depuis une terrasse qui servait de point de vue, un premier plan fait de pins, puis des terres, et enfin la chaîne de montagnes qui semblait surgir du sol sous le ciel translucide. Partout la touche était dynamique, apparentait les zones de couleur à des mèches ocre, vertes ou bleues, et était d'une savoureuse clarté. Nulle ombre au tableau, aurait-on pu dire, car chacun des reliefs, des escarpements destinés à faire sentir les volumes, était d'une palette délicieusement tiède. À gauche de la composition, juste derrière le rebord de la terrasse qui faisait l'effet d'un promontoire, s'élevait un grand pin parmi un fouillis d'arbres, tous traités d'une touche montante, dans des gammes de vert, mais aussi de bleu. Ce fouillis touffu se répétait à droite, mais au lieu d'être dominé par l'élan d'un grand tronc, cette partie était marquée par la présence au loin, entre la montagne et les prés, d'un aqueduc aux 12 arches. Le centre du tableau était dégagé, s'ouvrait sur une sorte de parterre rural, et même agricole, car l'activité humaine s'y faisait imperceptiblement sentir, dont les pâturages et les champs étaient découpés assez géométriquement. Abondaient les coups de pinceau horizontaux, les suggestions anguleuses et géométriques pour les maisons. Aux teintes de l'herbe se mêlaient des accents chromatiques, de jaune, et parfois légèrement plus rougeoyants afin d'esquisser deux toits fondus dans l'environnement. Enfin, il y avait le massif dont la crête allait délicatement crescendo, depuis la gauche du tableau jusqu'à un sommet qui s'étalait en une espèce de petit plateau, avant de tomber de manière abrupte, de former un creux, puis de s'écouler lentement hors cadre, vers l'infini de la Provence. Quand elle vit le patronyme de l'artiste sur le cartel, Mona eut un réflexe. Elle se mit à chantonner. Cézanne ? N'avait-elle pas entendu plusieurs fois ces syllabes sifflantes à la boutique de son père, lorsque l'un de ses vieux jukebox crachotait les tubes de France Gall ? Mais voilà l'homme, sous son chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille, Cézanne peint. Il laisse s'accomplir la magie de ses mains. Le filet de voix de la petite était juste et clair. Son grand-père lui enjoignit de fredonner le titre jusqu'au bout devant quelques visiteurs si conquis qu'ils auraient bien repris en cœur. Elle força un peu le volume au moment de lancer « Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste ». Alors Henri, avec son extraordinaire talent pour faire parler toute substance, savante ou populaire, géniale ou consensuelle, prit à la lettre ces charmantes paroles de variété. Ce n'est, en l'occurrence, pas tout à fait une épreuve d'artiste que nous avons devant les yeux. On parle d'épreuve d'artiste au sujet de gravures, d'estampes. Or ici, il s'agit d'une toile peinte. En revanche, il ne fait aucun doute qu'au moment de l'exécuter, Cézanne portait un grand chapeau de paille, car d'après ce ciel bleu et ivoire, le soleil de la Méditerranée rayonnait. Et ça, Dadé ? Ça veut dire que Cézanne peignait dehors, comme Monet avec son chevalet portatif. Exactement. D'ailleurs, Monet et Cézanne se connaissent très bien. Ils sont amis, solidaires, admiratifs, l'un de l'autre. En outre, Cézanne avait exposé à ses côtés en 1874, lors de ce fameux événement, au cours duquel le critique Louis Leroy avait reproché à toute cette bande d'artistes d'être dans le sillage de Monet des impressionnistes. Et il associait Cézanne à cette école. Ils ont aussi en commun de faire des séries. Monet en avait exécuté de la gare Saint-Lazare, de la cathédrale de Rouen ou de ses nymphéas. Cézanne est quant à lui ici devant la montagne Sainte-Victoire en Provence, un monument naturel qu'il prendra près de 90 fois pour modèle. Ah, c'est sûr que la peinture de Cézanne, quand on regarde les rochers et les champs, c'est comme si elle était faite de petits morceaux. Elle me fait penser à Monet, mais Monet, c'était plutôt des taches, dit. Là, c'est plus solide. Enfin, je trouve. Tu as trouvé le mot juste. Car Cézanne dit lui-même qu'il a voulu faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et durable, comme l'art des musées. Monet peignait ce qu'il voyait par un jeu suggestif de touches de couleurs divisées, plutôt évanescentes, assez liquides. Dans cette version de la Sainte Victoire de Cézanne, Les facettes de la montagne, les champs dans la plaine, les branchages des arbres et la margelle du premier plan sont hachés d'une touche discontinue, certes, mais très structurée, bien plus compacte que celle de Monet. Ce dernier diluait son motif pour rendre compte de la fugacité de ce que l'œil humain perçoit. Cézanne ne dilue pas, il simplifie, tend vers quelque chose de plus stable et plus géométrique. Il conseillera d'ailleurs un jour, en 1904, à un peintre qu'il admirait, de traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. Monet, au fond d'elle-même, songeait à ses propres dessins des premiers âges. N'avait-il pas cette simplicité que semblait réclamer Cézanne? En tout cas, elle se sentait capable de dessiner un sapin si c'était un simple cône. Son cerveau était ballotté par le doute. Quand même, ces artistes étaient bizarres. Ils avaient beau être des adultes et travailler beaucoup, apprendre des tas et des tas de leçons, de techniques et théories, au bout du compte, ils voulaient en revenir à ce qu'on fait lorsqu'on est enfant. Henri tenta d'éclaircir ce paradoxe. Pour Cézanne, développa-t-il, tout était une affaire de qualité enfantine de l'art, mais poussée à son maximum d'intensité. Il prit un exemple. Un enfant ne met d'ombre nulle part, ne rejette pas d'éléments à l'arrière-plan dans la perspective. Tous les motifs ont la même importance. Un oiseau peut ainsi prendre les proportions d'une voiture, car chaque fois qu'il ajoute un motif, un gamin souhaite lui donner la vedette autant qu'à un autre. Il ne subordonne jamais d'élément faible à un élément fort pour valoriser celui-ci plutôt que celui-là. Chez Cézanne, c'est pareil. Monet riait, elle n'entendait rien à cette démonstration. Bon sang, pestait Henri en retour. Ce n'est pas évident de faire saisir à des mômes le génie qu'ils ont en eux. Mais il insista. Écoute-moi. Cézanne rejoint l'idéal enfantin en ceci qu'il ne cherche pas à creuser illusoirement son paysage dans la profondeur. Il veut que ses motifs surgissent hors de la toile. Et d'ailleurs, quand on regarde ces natures mortes, elles sont nombreuses à donner le sentiment, par le jeu des lignes et la disposition des objets, de basculer vers l'avant du tableau. Le mieux, c'est d'observer plus particulièrement ici les ombres. Intuitivement, un artiste les aurait représentées de manière concave, c'est-à-dire s'enfonçant, et par conséquent atténuant le motif. Cézanne dit qu'il a commencé à savoir peindre la Sainte Victoire quand il a réalisé qu'il fallait peindre les ombres en les irisant de sorte qu'elles se bombent et fuient le centre. Il devait donc peindre les ombres de manière convexe. À ce terme, Monet se rappela le globe métallique dans l'angle gauche du tableau de Marguerite Gérard au Louvre. Cézanne, dans ce tableau, ne concède rien à l'obscurité, pas un centimètre. Regarde en outre les pins. Ne te font-ils pas penser à quelque chose ? Monet examina la succession des touches horizontales et obliques qui animaient les mèches du feuillage, et malgré leur déclinaison de vert, elle y vit des flammes. Elle avança l'idée. Henri acquiesça. Il lui raconta comment, à la fin de sa vie, Cézanne disait que la Sainte Victoire avait une soif impérieuse de soleil, il citait de mémoire, tandis que les blocs dont elle se constituait étaient tout simplement du feu, un incendie minéral. Tu sais, Monet, ce pays, le midi de la France. Paul Cézanne le connaissait intimement. Il y naquit en 1839. Son père était banquier et s'opposait à son choix de devenir artiste. « On meurt avec du génie et l'on mange avec de l'argent », déplorait-il devant la vocation de son fils. Paul put longtemps compter sur l'amitié et les encouragements de celui qui deviendra l'écrivain le plus influent de l'époque, Émile Zola, avec qui il grandit à Aix-en-Provence. Malheureusement, ils s'éloignèrent au fil des décennies. De même, alors que la plupart des impressionnistes bénéficièrent de l'appui d'un marchand visionnaire nommé Paul Durand-Ruel, il n'eut de son côté presque aucun soutien financier. Il ne vendit que très peu d'œuvres jusqu'à l'époque où il signe ce tableau, aux alentours de 1890. Il s'obstina pourtant. « La peinture reconnaîtra les siens », se rassurait-il, extravagant de courage et solitaire à l'extrême. Et dans cette solitude, l'un de ses compagnons était un peintre mort depuis 2 siècles, un éminent classique du Louvre, Nicolas Poussin. Il disait d'ailleurs que son travail était, poussin refait entièrement sur nature. Non qu'il exécute exactement le même type de tableau. Il n'avait aucune envie de singer bêtement le XVIIe siècle. Mais face à la Sainte Victoire, il investissait en revanche la même exigence que Poussin à son époque. « Ah ça, je me rappelle, Dadé. Il était interdit de trembler. » « Oui, pour que tout soit le plus parfaitement équilibré, ait un maximum de consistance, que tout vibre également sans se déliter. » « Ça voulait dire qu'il restait bien calme devant son tableau, Cézanne ?»« Et pourtant non. Il était en fusion perpétuelle. Un brasier intérieur le consumait. Son maître mot, c'était la sensation. Il désirait capter toutes les sensations de la nature, puis en extraire la synthèse parfaite. Tu interprétais Franz Gall tout à l'heure. Permets que je lui réponde par la voix du poète allemand Rainer Maria Rilke. Rilke, louant l'art de Cézanne, déclarait « C'est comme si chaque point du tableau avait connaissance de tous les autres. Voilà la clé. C'est comme si dans cette toile, la touche rougeâtre de l'un et l'autre toit au cœur du paysage était consciente de son lien avec alentour le moindre accent violacé des reflets sur la montagne, la plus petite touche incurvée suggérant le souffle dans le ciel, ou chacun des traits horizontaux esquissant des champs, et réciproquement. Peut-être on pourrait dire les choses plus simplement, Dadé. En fait, c'est vraiment comme dans la chanson quand elle dit qu'il éclaire le monde. Oui, c'est ça. Ses yeux à lui, dessillés, voulaient tout voir. Ses yeux étaient d'ailleurs tellement concentrés qu'ils lui sortaient de la tête, s'imbibaient de sang. Ils étaient exténués par l'effort et l'obsession de scruter l'univers et la peinture. Parfois, il était littéralement accablé et pouvait passer 20 minutes entre deux coups de pinceau. Ses séances de travail duraient des journées entières. Un bon mot à son sujet prétend même que pendant les interminables heures où il s'épuise devant la Sainte Victoire, ce n'est pas la montagne qui s'érode, mais Cézanne lui-même en train de la peindre. Pourtant, l'artiste persévère, insiste, ne capitule jamais. Alors, peindre cette montagne, c'est un peu comme l'escalader, avança timidement Mona. Oui, exactement. Il la peint comme il la gravirait. Et malgré les échecs et les doutes, malgré les efforts qui lui font saigner les yeux, il poursuit son chemin.
Oh, Dadé, la leçon du tableau, s'exclama Mona. Dis-moi que je peux la faire aujourd'hui. Je sais ce que c'est.
Henri l'invita à parler. Ainsi encouragé, Mona se remit à chantonner en souriant. Mais ce n'était plus Cézanne peint. C'était une autre chanson de Franz Gall, celle sur laquelle elle avait mimé un concert avec son père à la brocante la semaine précédente. Résiste. Or, parmi les paroles, il y avait en effet 4 impératifs qui éclataient comme les parfaits mots d'ordre de l'œuvre du jour et de son fabuleux auteur. « Viens, bats-toi, signe et persiste !» donna Mona, les mains tendues vers les hauteurs du musée, la tête en arrière, les cheveux en bataille, ivre, vive, vibrante, vivante.